Trump le retour avec plusieurs millions de voix d'avance sur Kamala Harris, l'ancien président républicain retournera à la Maison Blanche. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que je vous propose. J'ai demandé aux reporters de m'envoyer un petit message vocal du moment fort qu'ils ont vécu pendant cette nuit électorale. Alors on va aller en Pennsylvanie, en Floride, dans le Michigan, et vous allez l'entendre, c'est un peu ce qui m'a surpris aussi en réalisant ce podcast, c'est qu'ils se répondent toutes et tous. Avec Benoît Ballet comme fil rouge, il est correspondant aux États-Unis, vous avez l'habitude de l'entendre dans ce podcast. Bienvenue dans le Washington Briefing, 24 heures après le vote des Américains.
Salut Yves, c'est Cédric. Pour moi, la nuit dernière, j'étais en Pennsylvanie, pas dans une grande ville, mais dans une zone rurale à 50 km de Pittsburgh. Et j'ai passé la soirée avec des républicains qui avaient privatisé un bar pour suivre la soirée électorale à la télévision.
Salut Yves, c'est Isabelle. Cette nuit, j'étais donc en plein centre de la capitale fédérale américaine, Washington DC, à un peu moins d'un kilomètre de la Maison Blanche, dans un très grand bar pour assister à ce qu'on appelle ici une watch party, c'est-à-dire regarder les résultats qui tombent petit à petit dans un grand bar avec plein d'écrans de partout. Et en fait, ce qui nous a assez frappé avec Théo Touché qui m'accompagnait, c'est que d'abord, il y avait énormément de monde, beaucoup de démocrates parce qu'on est dans la capitale et que la capitale vote très largement démocrate.
Et alors j'avoue, je ne m'attendais pas du tout à ce que la soirée ressemble à ça. Bon, d'abord, qu'on ait les résultats aussi rapidement. Moi, je me souviens qu'il y a 4 ans, il avait fallu attendre 4 jours.
Salut Benoît.
Salut Yves.
T'es correspondant aux États-Unis. T'étais à West Palm Beach toute la nuit, là, devant le QG de campagne, du coup, de Donald Trump. Hier, on terminait l'épisode en se posant la question, quand est-ce qu'on aura les résultats? Est-ce que t'es étonné que les résultats soient tombés si tôt?
Oui et non. Ça faisait partie des scénarios possibles. On en discutait avec Thierry. Tu sais, avec toi hier, on parlait quand même de scénarios dans lesquels Donald Trump ou Kamala Harris pouvaient emporter la totalité des swing states de ces états pivots. Donc oui, ça c'était surprenant vraiment de voir la Pennsylvanie qui, aux alentours de 2h du matin, donc 2h du matin, c'est que 5h après la fermeture des bureaux de vote dans cet état de la côte Est. Ça, j'avoue que ça m'a surpris. Et d'ailleurs, c'était d'autant plus important que, à ce moment-là, Donald Trump savait déjà qu'il avait la Géorgie pour lui et la Caroline du Nord. Et il attendait de voir si la Pennsylvanie allait tomber, allait se colorer de rouge plutôt que de bleu. Tu sais, le rouge, la couleur du Parti républicain, le bleu, c'est les démocrates, pour prendre la parole. Et c'est une fois qu'il a eu la certitude que la Pennsylvanie était pour lui qu'il s'est exprimé depuis ce palais des congrès de West Palm Beach, d'ailleurs, que je vois toujours au moment où je te parle, puisque je n'ai pas encore pu aller dormir. On continue de raconter sur l'antenne de BFM TV tout ce qu'il s'est passé, parce qu'évidemment, il y a beaucoup à dire.
Salut Yves, c'est Élise depuis Atlanta. Cette nuit, on était dans un bar d'Atlanta justement avec Sonia Renault. On a passé toute la soirée avec des électeurs démocrates et on voulait te raconter ce moment de bascule qui est arrivé assez tôt dans la soirée.
Comment ça s'est passé ta nuit là devant ce palais? C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué?
Il y a le moment de l'attente et de ces républicains qui te disent « ça sent bon, on sent qu'on va gagner ».
Salut Yves, c'est Hugo. Cette nuit, j'étais à Philadelphie, en Pennsylvanie. En fait, hier soir, j'ai passé la soirée avec des militants républicains. Et à Philadelphie, clairement, ça ne court pas les rues. Hier, les jeunes du Parti républicain de Philadelphie organisaient quand même leur petite soirée pour suivre les résultats. L'endroit était presque caché dans la petite arrière-salle d'une taverne, elle-même un peu perdue dans un quartier résidentiel. C'est donc là, avec quelques bières et cette fois leur casquette MAGA, qu'une vingtaine de militants trumpistes ont suivi les résultats. L'ambiance était très mesurée, presque timide pour des militants républicains.
J'avais l'impression qu'ils s'empêchaient quelque part de vouloir déclarer victoire. Parce qu'ils ont toujours en mémoire cette élection de 2020 où leur candidat, leur champion, Donald Trump, dit qu'il a gagné. Et puis, 4 jours plus tard, ils réalisent que non. Et donc, j'ai vraiment senti une forme de retenue. Ils avaient le sourire aux lèvres. Tu sentais qu'ils n'attendaient qu'une chose, que pas grand-chose pour sauter de joie. Mais ils s'en empêchaient.
Et puis, la Caroline du Nord est tombée. La salle s'est levée, des bières ont volé et dans le regard des militants, quelque chose a changé. Le premier état bascule attrapé par Donald Trump a aussi fait basculer la soirée. À partir de là, les « Oh my God » et les « America is back » pleuvaient. Quelques heures plus tard, Donald Trump remportait l'élection et la Pennsylvanie avec le plus gros écart depuis Ronald Reagan.
Salut Yves, c'est Clémence Dibou avec Camille Fournier à JRI à la caméra. Alors nous, on a suivi cette soirée électorale depuis Washington à l'université d'Howard.
Salut Yves, c'est Philippine. Je voulais te raconter la soirée un peu particulière que nous avons vécue ici à l'université Howard.
Là où Kamala Harris avait installé son QG de campagne.
Où évidemment des centaines de partisans attendaient avec impatience les résultats de l'élection.
Il y avait tellement de monde, 20 000 personnes, que Camille, avec la VWest, c'est notre moyen de transmission, a vraiment galéré pour faire des images. C'est quand même un indice qu'il y avait vraiment beaucoup de monde.
Franchement, ça a été très très galère. J'ai fait je ne sais pas combien de pas dans la nuit pour avoir le moindre petit débit de réseau. Et le seul endroit où on avait du réseau, c'était le long des toilettes portables à l'entrée, assez loin de la scène.
Là, ce que tu entends, c'est les checks de discours, parce qu'il va très certainement y avoir un discours aujourd'hui de Kamala Harris qui est en train de se préparer. Il y a eu deux ambiances, deux moments dans cette soirée. Tout le monde est arrivé, vraiment, il y avait ici donc des cadres du Parti démocrate, des étudiants, des anciens étudiants de cette université prestigieuse. Tout le monde était vraiment bien habillé, comme un peu à un mariage. Il y avait une certaine fierté à venir fêter cette soirée électorale d'une ancienne élève de cette faculté. Il y avait beaucoup de danse improvisée, il y avait beaucoup d'ambiance dans le public. Et puis on a commencé à mettre CNN sur écran géant pour les premières projections, et là on a senti la tension s'installer. Il y avait de moins en moins de musique. Alors au début, eh ben, les partisans n'ont pas voulu y croire. Ils ont dit oui, mais on va voir pour les autres étapes.
Au fur et à mesure, forcément, les sourires se sont envolés. Les mines se sont déconfites.
Et puis alors, quand un des responsables de sa campagne est arrivé sur scène, on y a cru, parce qu'en fait, il a commencé à avoir des jeux de lumière. Tous les VIP se sont installés. On leur a demandé de s'asseoir, on a demandé de faire le silence. Et là,
le coup de massue, ça a été au moment où un des directeurs de campagne de Kamala Harris a pris la parole devant le public.
Il y a toujours des bulletins dépouillés.
Il a dit, bon voilà, Kamala Harris ne viendra pas ce soir.
C'est pourquoi vous n'entendrez pas Kamala Harris ce soir. Mais vous l'entendrez demain, elle s'adressera à la nation.
Et alors là, ça s'est vidé en 30 secondes, allez, j'exagère, en 5 minutes top chrono.
Puis une fois qu'on a su que c'était bon, que Donald Trump déclarait la victoire, là, ben, c'est simple, on a vu des embrassades, des gens qui nous racontaient qu'ils allaient sabrer le champagne.
Salut Yves, c'est Quentin à Détroit dans le Michigan. Avec Fabrice Babin, on a assisté hier à la soirée électorale des Républicains. Cri de joie, évidemment, quand il a remporté la Pennsylvanie, par exemple.
C'est le moment où les électeurs avec qui on était ont compris que Donald Trump allait gagner la Géorgie. Ça, c'était vraiment symbolique pour eux, parce qu'il y a 4 ans, Joe Biden avait réussi à arracher la Géorgie, qui était plutôt républicaine d'habitude, aux mains de Donald Trump. Et cette année, ils espéraient que Kamala Harris puisse réitérer l'exploit, mais ça n'a pas été le cas.
Et immense clameur quand Fox News, avant tous les autres médias, a donné Trump vainqueur de la présidentielle. Le slogan « USA, USA » a été scandé avec force.
Il n'y avait plus personne, la soirée électorale était terminée, c'était terminé.
Laissant une place triste et vide. Même les drapeaux ont été enlevés, le pupitre a été bâché.
Et à chaque fois qu'il y avait des projections favorables aux démocrates, il y avait des cris, des applaudissements. Et puis au bout de 2-3 heures, on a senti l'ambiance qui changeait un peu d'un coup, notamment au moment des résultats partiels de Pennsylvanie, qui était l'état clé à décrocher. On a commencé à voir les visages se crisper. Et puis très vite, en fait, les gens sont un peu partis. Assez vite, on a discuté avec un jeune homme qui est de passage ici, qui est venu voir sa famille, qui est originaire de Seattle, du nord de Seattle, qui est pourtant une ville très démocrate. Et lui nous a dit, j'ai toujours voté démocrate, mais cette fois-ci, j'ai voté pour les républicains pour des raisons économiques. On s'est dit que tout de même, c'était un petit signe.
Des effusions de joie tellement naturelles que c'est vrai que tu peux difficilement t'empêcher de sourire pour ces personnes que tu vois devant toi, même si tu ne partages absolument pas leur vue politique.
Et juste après, pour l'anecdote encore, on a vu un client arriver avec la grosse casquette rouge MAGA, Make America Great Again, dans ce bar très démocrate en plein centre de Washington. Et là, on s'est dit, l'électeur trumpiste avec sa casquette MAGA, c'est peut-être un signe aussi.
Dans les derniers épisodes, on se disait aussi, on a parlé du vote latino, on a parlé du vote genré, on disait que peut-être que les hommes voteraient plus pour Donald Trump que les femmes plus pour Kamala Harris. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait à peu près qui a voté et pour qui?
Alors, on a des premiers indices, mais il faudra évidemment affiner, parce que ce sont des sondages qui ont été faits à la sortie des urnes.
Ils étaient rassemblés dans une grande salle de la banlieue aisée de Détroit, 4 à 500 personnes environ. Il y avait là un public plutôt varié, des inconditionnels de Trump avec la casquette ou le t-shirt « Make America Great Again ».
Et alors, ce qui était intéressant, c'est que j'étais avec des républicains, Trumpistes forcément, hier soir, mais très calmes, très posés, pas les personnages, faut bien le dire, souvent caricaturaux qu'on rencontre dans les meetings.
Mais aussi beaucoup de femmes, des Noirs, des Latinos, des personnes d'origine arabo-musulmane.
Il semblerait que, finalement, il y ait eu moins de femmes qui aient voté pour Kamala Harris que ce qui était prévu. La proportion de femmes qui ont voté pour Kamala Harris, elle est moins importante que celle qui avait voté pour Joe Biden en 2020. Comment on va l'expliquer ? Il faudra évidemment essayer d'aller parler à ces femmes pour comprendre ça. Mais tu sais, on a beaucoup parlé du Michigan et de cette ville de Dearborn avec une forte concentration de communautés arabo-américaines qui étaient très, très véhémentes à l'encontre de Kamala Harris, la vice-présidente, puisqu'il reprochait à l'administration Biden de ne pas faire assez pour la cause des Palestiniens, des Libanais dans le conflit qui oppose le Hamas à Israël au Moyen-Orient. Il semble que là aussi, Kamala Harris ait essuyé un très gros revers. On a aussi vu, et dans les premiers éléments qu'on a, que finalement, énormément de latinos, d'hommes latinos et même de portoricains, ont voté pour Donald Trump. Et ce, malgré les dernières polémiques.
Oui, malgré la blague raciste avec, de Mitch.
Exactement. Cliff. Exactement. Malgré cette blague raciste qui, on pouvait le penser, aurait pu coller vraiment à la peau de Donald Trump et le priver de précieux votes. Le vote noir également a plutôt souri à Donald Trump. En fait, je lisais tout à l'heure qu'il a vraiment amélioré ses scores dans les différents comtés des États-Unis par rapport à 2020. Il a amélioré son score dans 92% des quelques 3000 comtés américains qui votaient.
On a pu discuter avec eux de leurs attentes, les domaines dans lesquels ils espèrent des changements le plus rapidement.
Quelles pourraient être les premières mesures de Donald Trump ? La passation aura lieu le 20 janvier, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire à partir du 20 janvier ?
Il parle de son day one, donc le premier jour. Tu sais, il avait eu cette formule de « a dictator on day one », donc il ne serait dictateur que le premier jour. Parmi les mesures qu'il évoquait, il y a l'idée d'expulser 1 million d'immigrés illégaux. Ça, c'est une mesure très forte de Donald Trump pour, d'après lui, lutter contre l'immigration clandestine aux États-Unis. Ce qu'il répète aussi à l'envi, c'était ce slogan qu'il appelait « drill, baby drill », de continuer à forer, à extraire du pétrole pour relancer la machine à énergie des États-Unis et dans son idée de faire baisser les prix de l'énergie.
Changement le plus rapidement sont l'économie et le pouvoir d'achat, ainsi que l'immigration. Et les partisans de Trump à qui on a pu parler en sont persuadés. Les choses vont changer vite, très vite, grâce à l'élection de leur candidat.
Et alors tous, quasiment, m'ont dit, on fait bien la différence entre ce que Trump a fait pour l'économie et l'homme qu'il est, on n'a pas besoin d'être d'accord avec l'homme. Il me disait, nous, on regarde l'argent qu'il y a dans notre porte-monnaie à la fin du mois, et ce qu'on voit, c'est qu'on vivait mieux quand c'était lui qui dirigeait le pays.
Donald Trump, de ce qu'on comprend quand on parle aux électeurs républicains qui étaient là à West Palm Beach hier soir, il a été élu véritablement pour deux choses, pour rétablir le pouvoir d'achat que les Américains estimaient avoir durant son mandat, et puis lutter contre une immigration illégale. Ce qu'on nous dit beaucoup, c'est que on n'a rien contre l'immigration aux États-Unis parce que c'est un pays qui s'est construit pour ça, mais que on ne veut pas payer pour ceux qui entrent illégalement.
En fin de soirée, on voulait te raconter aussi un autre moment qui nous a marqué. On a vu une jeune femme en pleurs dans ce bar où il n'y avait plus beaucoup de monde aux alentours de 2-3 heures du matin. On est allé la voir et elle nous a dit qu'elle était mexicaine, naturalisée américaine depuis peu, qu'elle avait voté cette année pour la première fois à l'élection présidentielle et que ça lui faisait très mal au cœur de voir que Donald Trump allait gagner cette élection. C'était vraiment les deux moments qu'on voulait te raconter de cette nuit passée à Atlanta avec des démocrates.
Je te laisserai dormir juste après cette dernière question, Benoît. Et toi qui es correspondant aux États-Unis, comment est-ce que tu imagines la suite de ton travail avec une administration Trump, avec un président qui déteste les journalistes, les médias mainstream ?
Il a toujours coutume dans ses meetings de montrer du doigt les journalistes, de parler de fake news. Donc je crains que le climat dans lequel je devrais travailler ne soit beaucoup plus complexe, peut-être anxiogène et sombre, que ce n'était le cas jusqu'ici dans le cadre de l'administration Biden et puis Harris.
Merci Benoît, bon courage et repose-toi bien. Et avant de terminer ce podcast, il y a une voix que l'on entend tous les jours dans le Washington Briefing que l'on n'a pas encore entendue, c'est celle de Thierry Arnaud. Thierry qui est éditorialiste politique international.
Salut.
Qui m'a laissé un petit message.
Écoute-moi, je voudrais insister sur un point qui me paraît vraiment important dans le résultat vraiment spectaculaire de cette élection, c'est qu'à côté du triomphe, de la percée, de la vraie réussite de Donald Trump, il y a l'effondrement de Kamala Harris. Et je te donne quelques chiffres pour montrer ça. Au moment où on se parle, il y a 90% des bulletins dépouillés, il y a à peu près 72 millions de voix pour Donald Trump, et il y en a 66 millions à l'échelle nationale pour Kamala Harris. Et ça veut dire qu'il va être le premier candidat républicain en 20 ans à avoir la majorité de ce qu'on appelle ici le vote populaire, c'est-à-dire les suffrages exprimés. Quand tu compares à ce qui s'est passé il y a 4 ans avec Biden contre Trump, ce qui est vraiment très frappant, c'est que au fond, Trump, il va être dans le même étiage qu'il y a 4 ans. Il va être, une fois qu'on aura tout compté, autour de 72, 73 millions de votes peut-être. C'est-à-dire, au total, la même chose qu'il y a 4 ans. Kamala Harris, si elle est autour d'eux et peut-être même sous les 70 millions de voix, ça veut dire que par rapport aux 81,3 millions de voix de Joe Biden il y a 4 ans, elle a perdu dans la nature, si j'ose dire, 10 millions de voix démocrates. Donc, certes, Donald Trump a cartonné, si je puis dire les choses de manière un peu familière. Il est parvenu à conquérir beaucoup d'électorats qui étaient traditionnellement démocrates, on l'a dit, les ouvriers, les latinos. Mais le fait peut-être le plus spectaculaire de cette élection, c'est aussi la sous-performance de Kamala Harris dans l'ensemble de l'électorat démocrate et les millions de voix qu'elle a perdu par rapport à Joe Biden il y a 4 ans.
Merci Thierry, merci Benoît, merci Cédric, Clémence, Philippine, Isabelle, Quentin, Élise et Hugo et à toutes les équipes aux États-Unis et à Paris. Merci à vous d'avoir écouté ce Washington Briefing, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire et à vous abonner. À demain.